Okay. Déjà, bonsoir. Si je ne vous ai pas dit bonjour tout à l'heure, je m'excuse et je voudrais le faire maintenant. Vous salue au nom du Seigneur Jésus et puis je suis vraiment content qu'on puisse passer un temps ensemble. Pour moi, je vais vous dire franchement, c'est une grande opportunité de travailler avec vous pour ces 4 prochains mois. C'est que du bonheur, je vous l'ai dit un petit peu dimanche dernier lorsque j'étais avec vous. J'ai l'impression que dès qu'on décide de faire un truc, c'est fait tout de suite, dans l'heure, c'est planifié, c'est fait au millimètre près. C'est vraiment très agréable de travailler avec des Chinois, ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça c'est fait. Je suis content aussi qu'on puisse parler de ce thème et je suis content qu'il y ait Rob dans la salle parce qu'il y a quelques temps, on avait Rob qui était notre orateur avec le groupe de jeunes de Montreuil et il avait abordé ce thème qui n'est pas facile, qui est un thème difficile, la question de qui est Satan, de comment il agit et de comment Christ a la victoire sur lui. Et on aura l'occasion de se focaliser pendant les prochains jours, en particulier sur un passage bien connu peut-être des Écritures, c'est Jésus qui avertit Pierre de son reniement et qui lui dit « J'ai prié pour toi ». Afin que ta foi ne défaille pas. Et ce que je vous propose, c'est que nous puissions avoir ce soir ensemble une petite introduction sur qui est le diable et quelles sont ses œuvres. Et on va juste prendre un verset pour cela. Un verset qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2. Et on va lire un peu avant quand même, on va lire au verset 10, de Corinthiens 2, verset 10 et 11. Paul qui parle d'une situation particulière de discipline où un homme avait été, l'avait probablement insulté et cet homme avait été mis sous discipline. Et verset 10, il dit, en gros, restaurez-le, il dit, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose à cause de vous en présence de Christ, je l'ai fait à cause de vous, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses intentions. On va juste prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour tout ce qu'elle nous enseigne par rapport à ta personne, à ta nature, à la grandeur de ton œuvre, à la grande victoire que tu as obtenue sur la mort en Jésus-Christ, à cette grande victoire que tu as obtenue sur Satan, lorsque tu es venu écraser la tête du serpent il y a 2000 ans, et tu le feras d'une manière définitive lors de ton retour, Seigneur. Nous attendons ce jour de jugement éternel qui tournera à notre avantage si nous nous sommes confiés en toi, Seigneur. Et nous voulons te prier réellement pour que ce soir tu puisses nous donner du discernement pour comprendre qui est cet adversaire qui rôde autour de nous. Nous te prions, Seigneur, que ce week-end soit aussi une occasion de bénédiction ensemble pour voir quelle grande barrière, quelle grande muraille Christ a dressée autour de nous, a dressée autour de ceux qui se confient en lui. Seigneur notre Dieu, je te prie pour que ce temps aussi soit un temps de ressourcement, de rafraîchissement ensemble des unités d'Église, et que tu puisses vraiment préparer aussi dans cette paix que tu veux nous donner les uns aux autres, cette semaine d'évangélisation qui arrive à la fin du mois. Je te prie vraiment pour toutes les implications, Seigneur, de ce week-end, que tu sois au contrôle de toutes choses et que nous puissions te voir à l'œuvre, afin que notre bouche te loue. Et que tu sois glorifié par nos vies et par nos paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un film que j'apprécie beaucoup, qui est un de mes films préférés lorsque je n'étais pas chrétien. C'est un film que je vous conseille en termes de scénario, mais pas en termes de langage employé, parce qu'il est assez grossier. Il s'appelle Usual Suspect. Si vous avez déjà vu Usual Suspect, c'est un film très bien ficelé. Le problème, c'est que quand vous l'avez vu une fois, vous connaissez la fin, vous avez perdu tout le suspense. Mais une phrase qui revient régulièrement dans ce film, c'est la phrase suivante. Le coup le plus formidable que le diable n'ait jamais réussi à faire, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Et après, il s'envole. Il s'envole. Est-ce que vous pensez que les Corinthiens, avec lesquels nous avons certainement toutes sortes de points communs, pensaient au diable lorsqu'ils étaient en train de se déchirer, de se friter, de se taper les uns sur les autres, qu'ils avaient probablement la tête dans le guidon? Est-ce que vous pensez qu'ils étaient en train de se dire « Ouais, le diable est en train de me tenter, là ?» À mon avis, leur pensée était plutôt focalisée sur l'instant présent, sur l'amertume de la colère, la souffrance, la division. Et Paul leur dit « Faites gaffe, toute cette situation où l'adversaire a quelque chose à voir avec, ne lui laissez pas l'avantage. Pardonnez-vous, parce que si vous ne pardonnez pas, vous laissez l'avantage au diable et vous êtes en train de laisser un avantage qui, comme une porte ouverte dans laquelle il va rentrer son pied de biche et s'il pouvait, il va tout arracher. S'il pouvait mettre un pied dans la maison, il rentrerait et vous ferait bien du mal, Corinthiens. Pourrait-on dire Saint-Maurien ? Paul leur dit, pardonnez. Ne laissez pas l'avantage au diable. Si vous voulez une bonne raison de pardonner, goûtez cette grande victoire de Christ sur Satan, car si vous ne pardonnez pas, vous ne la vivrez pas. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu non plus ne vous pardonnera pas les vôtres. C'est un autre sujet, ce n'est pas celui dont on va avoir une petite discussion sur le thème ce soir. J'aimerais rappeler simplement autour de ce verset quelques vérités fondamentales que peut-être on oublie parfois, parce qu'il est vrai que dans nos milieux, on a une tendance à avoir peur de parler du diable. Pour la pure et simple raison qu'il nous apparaît que dans certains mouvements et dans certains milieux où on saute beaucoup partout, on crie beaucoup « arrière Satan », on fait toutes sortes de choses qui sont un petit peu, je dirais, anti-bibliques, voire qui sont un petit peu paradoxales, anormales et qui peuvent parfois choquer les gens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur certains amis non-chrétiens qui vous disent « ah oui, mais je vois exactement... ce que tu vis et ce qui se passe dans ton église. J'ai vu un reportage à la télé, c'est l'église où les gens ils tombent par terre, c'est ça ? Non, pas exactement, je vais t'expliquer. Mais il y a certains milieux où Satan est instrumentalisé un petit peu comme dans une lutte entre le bien et le mal. C'est une doctrine malheureusement qui a de plus en plus cours, même dans nos pays occidentaux, où soi-disant la terre serait découpée en zones et en secteurs, et chaque secteur aurait son démon particulier. Et attention à toi, dans le secteur dans lequel tu es, il y a un démon qui règne. Fais gaffe, cette théologie s'appelle la théologie entre autres du dominion et de la sectorisation des démons. Bien évidemment, c'est une fausse doctrine. Mais ce n'est pas parce que certains instrumentalisent le diable que nous, on va arrêter d'investiguer celui que la Bible présente comme étant l'adversaire de notre âme, l'adversaire de notre foi. Le diable existe et nous devons en parler. Le diable cherche à nous séduire. Le diable cherche à briser notre marche chrétienne. Il cherche à mettre une ornière entre nous et Dieu pour que nous nous rétamions de tout notre long et que nous ne puissions plus avancer. Et le diable, chers amis, est puissant parce qu'il est un tentateur hors norme. Et il a de grandes capacités à tenter. Et peut-être vous ne le remarquez pas au quotidien dans votre vie, mais je ne serais pas surpris que ce soir, à mesure que je vais développer les quelques points que j'ai préparés pour vous, vous puissiez vous rendre compte que Satan est réellement un tentateur hors norme qui agit puissamment dans votre sphère, dans votre vie, jusque dans vos pensées. Et j'aimerais vous laisser ce soir 6 raisons pour lesquelles le diable est un tentateur hors norme. 6 raisons pour lesquelles, lorsqu'il vous tente, c'est souvent avec beaucoup de difficultés que vous pouvez vous en sortir. 6 raisons qui vont vous permettre de discerner le diable dans ses œuvres et qui serviront de base à ce qu'on va dire dans les 2 prochains jours. La première raison, c'est qu'il est un tentateur hors norme en raison de sa nature. En raison de sa nature. Et si je vous demande quelle est la nature du diable, vous me répondrez, c'est un méchant. Il est méchant, le diable. Merci, référence. Il est méchant. Mais le diable est un ange. La référence biblique, s'il vous plaît. Ok, Ézéchiel. Mais alors, les passages d'Ésaïe et d'Ézéchiel qui parlent du diable comme étant un chérubin protecteur sont parfois très débattus. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Alors, si vous voulez bien me donner une référence biblique sûre qui puisse me donner l'assurance que le diable et ses anges sont des anges et des anges qui ont été déchus. Qu'est-ce que vous me citeriez comme verset ? Un truc très clair. 2 trucs très clairs. Jude, vas-y. Jude verset 6, tu peux le lire ? Est-ce que quelqu'un peut lire Jude verset 6 ?
À partir du verset 5.
Ouais, il est à partir du verset 5, vas-y.
Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien ce jour, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure.
Donc il y a des anges qui ont abandonné leur dignité, qui ont abandonné leur propre demeure. Est-ce que tu peux dire le parallèle dans le deuxième chapitre de la deuxième épître de Pierre, verset 4, 2 Pierre 2:4.
Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, Mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement, etc.
etc., etc., etc. Donc ces versets nous montrent clairement que le diable est un ange. Et je vais vous lire ce que dit le puritain William Gouge, qui dit « Bien qu'il ait chuté, il n'a pas perdu sa substance naturelle, ni par conséquent ses propriétés essentielles, pas plus que ce qu'un homme perd lorsqu'il chute. » Vous êtes des créatures déchues depuis la chute d'Adam, vous avez gardé vos propriétés naturelles en tant qu'homme et en tant que femme. Simplement, ses qualités et ses propriétés sont altérées et elles passent du bien au mal. Donc il est toujours un ange déchu, un ange mauvais, un ange altéré dans ses capacités et ses propriétés, mais c'est un ange, c'est un vrai ange. Ça implique qu'il est un être spirituel. Il est un être spirituel, et un être spirituel peut agir d'une manière surnaturelle. Par exemple, en formant dans le cœur de ses proies, ceux vers lesquels il exerce sa tentation, des pensées qu'il va venir implanter directement dans le cœur, comme par exemple lorsqu'il a mis dans le cœur de Judas de livrer Jésus, ou encore venir tourner autour de toi et te chuchoter à l'oreille en te faisant passer ses chuchotements pour tes propres pensées, et souvent de la telle manière il va chercher à te décourager ou à te faire rentrer une tentation dans ton cœur. Oh, si tu faisais ça, oh, regarde la belle fille qui traverse en face, si tu la regardais un peu plus que tu ne le devrais. Voilà exactement cette manière de fonctionner qui fait de lui un être surnaturel qui va s'approcher de toi d'une manière que le commun des mortels ne connaît pas et qui vient d'en haut en quelque sorte. Il a été créé dans une dimension différente de la nôtre. Il est un être spirituel, mais il est en plus un être intellectuel. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'avoir des réactions qui soient spirituellement et surnaturellement différentes des nôtres, mais en plus, il a une capacité de raisonnement qui est absolument sans commune mesure à la nôtre. J'ai un ami qui s'appelle Timothée Coulmy, certains d'entre vous le connaissent, et comme je vous ai dit, Timothée Coulmy, certains se disent peut-être, pourquoi est-ce qu'il l'appelle son ami? C'est pas très grave. J'ai un ami qui s'appelle Timothée Coulmy, qui est professeur de mathématiques. Si vous donnez un problème de mathématiques à Timothée Coulmy, et que vous me donnez le même problème, il y a des chances qu'à un moment donné, ce problème, je le résolve à peu près 3 jours, là où Timothée Coulmy mettra environ 4 à 5 minutes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je n'ai aucune capacité intellectuelle à faire des maths. J'ai toujours été mauvais en maths, sauf à partir du moment où vous mettez le symbole euro derrière le chiffre. À ce moment-là, j'arrive à faire les calculs et je me débrouille plutôt bien. Mais si vous donnez un problème de maths avec des vecteurs de la géométrie que je déteste à Tim, il va vous le résoudre. C'est sa passion. Prenez cette comparaison, appliquez-la à vous-même. Est-ce que vous mettez, avec force de réflexion, longtemps à comprendre? Le diable, par ses propriétés surnaturelles, le fait très rapidement. Comparez un mathématicien mauvais et un bon mathématicien, vous aurez le diable et vous-même en face de vous. Les choses qui vous prennent des jours et des jours à méditer, pour lui, elles sont claires comme de l'eau de roche, juste après les avoir considérées. Il est capable d'interpréter un battement de sourcils pour comprendre ce qui se passe dans votre tête. Il ne peut pas lire vos pensées. Bon, il sait décoder vos moindres faits et gestes, parce qu'il est un être surnaturel et qu'il a une capacité intellectuelle fondamentalement différente de la vôtre, tout simplement parce qu'il est une créature différente de vous. Il est un ange déchu, mais il est un ange, et c'est ce qui fait une grande partie de sa puissance de tentateur. Il est un ange. Une deuxième caractéristique pour laquelle il est un tentateur hors norme, c'est en raison de son expérience. Chers amis, on parle de théologiens parfois et on dit voici un théologien très expérimenté. Les théologiens les plus expérimentés écrivent généralement des ouvrages de théologie systématiques, c'est-à-dire qu'ils ont classé la théologie en toutes sortes de doctrines, on appelle ça des systèmes. Ils ont compilé leurs doctrines, ils les ont façonnées en systèmes. Par exemple, tout ce qui, la doctrine qui touche au Saint-Esprit s'appelle la pneumatologie, de pneuma en grec, ça veut dire esprit, souffle. Quand on parle de doctrine de Christ, on parle de christologie. C'est un système, chaque système a toute la règle de doctrine qui lui correspond. Et le puritain Spurstow a dit que le diable a compilé ses tentations en système. Le diable a écrit en quelque sorte une théologie systématique des tentations. S'il pouvait écrire un bouquin sur les tentations, ça aurait au moins 50 000 volumes du fait de sa grande expérience, une expérience qui date depuis la création du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'expérience que Satan a à tenter les êtres humains de toutes les époques, depuis la création d'Adam jusqu'à nous aujourd'hui. Cette expérience, il la met en pratique et il la déploie d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Qu'est-ce qu'une vie ? Une vie de 80 ans, 120 ans maximum, quand vous avez à côté de vous un être surnaturel qui, depuis la création du monde, est exercé à tenter même les plus forts d'entre vous. Et cette expérience lui donne notamment une grande intelligence des situations, ce qui implique savoir quand tenter, à quel moment c'est le plus propice, et disposer toujours du parfait timing pour cela. Il sait que quand tu es fatigué, tu seras plus sujet à t'abaisser dans telle ou telle tentation. Il sait que le matin, c'est pas ton truc. Et que si on vient de chauffer, quand tu es en train de zigzaguer jusqu'au frigidaire pour aller prendre ta bouteille de jus d'orange, et que quelqu'un te dit à ce moment-là « Salut, comment ça va ?» tu risques de péter les plombs. Il sait toutes ces choses. Il sait exactement de quoi tu es fait parce qu'il t'observe. Il rôde comme un lion rugissant, lui ou ses anges, cherchant qui il dévorera. Et il te connaît dans tes situations de sorte qu'il saura toujours présenter la bonne tentation au bon moment et le timing sera réglé comme du papier à musique parce qu'il est expérimenté. Encore une chose, il a une grande dextérité du fait de son expérience à répondre aux objections qui sont faites à ses tentations et une grande aptitude à présenter le péché sous une belle apparence. Il connaît la musique. Eh, ça fait depuis la création du monde qu'il est juste en train de vous tenter, vous ou vos propres pères, vos propres mères, vos parents, jusqu'à votre premier père. Il était là dans le jardin. C'est lui qui a susurré à l'oreille de Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et ouais. Oh, il sait bien faire ces choses-là. Il a une grande dextérité à dialoguer avec vous. Quand vous commencez à argumenter avec le diable, dites-vous que vous avez de grandes chances de perdre. À moins de lui dire, « Arrière de moi, Satan. » Vous avez de grandes chances de perdre. Prenez l'exemple de Joseph, il connaissait bien ces choses-là. Quand Potiphar s'est approché de lui, il n'a pas fait le fier. « Oh, tu rigoles ou quoi? Je ne vais pas chuter avec toi. » Jamais de la vie, chers amis. Mais notre ami Joseph, il a préféré perdre un bon manteau qu'une bonne conscience. Et à bien des égards, la fuite de Joseph nous enseigne qu'il y a certaines tentations qu'il faut fuir, celles avec lesquelles nous sommes les plus faibles, pas seulement les tentations sexuelles. Celles-ci, fuyez-les parce qu'on est tous plus ou moins faibles, plutôt plus que moins, chers amis, par rapport à cela. Hommes ou femmes, fuyez-les, c'est différent, mais fuyez-les. Faites gaffe que vous soyez mariés, célibataires, faites gaffe. Mais pas seulement. Fuyez la tentation, fuyez l'inconduite, fuyez vos faiblesses, ne vous mettez pas en situation de faiblesse. Regardez l'insensé en Proverbe 9 qui s'approche de la prostituée. Mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait l'agneau qui va jusqu'à la boucherie et qui dit hey, « Tu veux bien m'égorger, s'il te plaît ?» Mais vous fuiriez moins souvent la tentation si vous ne vous approchiez pas. Et je dis « Vous, mais qu'est-ce que je pourrais dire nous ou je ?» Combien de fois on termine après avoir goûté le péché et l'avoir savouré jusqu'à la dernière goutte et on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu tomber là-dedans? Mais je connais la musique. Mais mon ami, le diable, il connaît la musique bien mieux que toi. Il a de l'expérience. » Et toi, t'es un petit jeune, t'es stagiaire dans cette vie. Il a compilé ses tentations en système et en raison de son expérience, il a cette grande dextérité. Cette expérience encore lui confère une grande confiance. Or, vous savez, quand vous arrivez dans la vie professionnelle, vous découvrez que vous avez souvent des vieux roublards. Ils ont 50, 55 ans, 60 ans, ils sont pas loin de la retraite, ils ont une grande expérience dans leur métier et vous vous dites, qu'est-ce qu'ils sont mous. Et vous, vous arrivez, c'est comme des flammes qui sortent de vos chaussures quand vous marchez jusqu'à votre bureau, les dents qui rayent le parquet, et vous vous rendez compte que le gars, il se presse pas parce qu'il connaît la musique et qu'il saura arriver au point B alors que vous n'aurez même pas décollé du point A malgré toutes les flammes et les turbos et la nitroglycérine que vous aurez mis dans vos chaussures. Chers amis, la grande confiance qu'ont les seniors parce qu'ils connaissent la chanson leur est donnée du fait de leur grande expérience. Et la grande expérience que Satan a lui donne toute la confiance nécessaire pour attaquer même le meilleur des saints. Et il n'aura pas peur, certainement pas peur, de venir s'en prendre au meilleur des meilleurs d'entre les chrétiens. Et il n'est pas étonnant que ceux qui ont les positions les plus élevées, ceux qui sont des hommes selon le cœur de Dieu, soient sujets aux plus grosses tentations. Et dites-vous une chose, c'est que c'est pas n'importe qui a couché avec Bathsheba et qui est parti tuer jusqu'à son meilleur soldat. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était celui qui disait « Je ne porterai pas la main sur le loin de l'Éternel ». Prenons garde, car ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles avec le même tentateur qui nous tourne autour, encore plus excité qu'avant, parce qu'il connaît sa fin. Sa tête est déjà écrasée. La troisième raison pour laquelle il est un tentateur hors norme, c'est en raison de sa passion. Par passion, j'ai hésité à prendre ce mot, je n'entends pas la passion comme la passion de Christ, ce pourquoi je souffre étymologiquement, mais j'entends par passion ce qui fait vos passions. Par exemple, Samuel a pour passion le gel, non pardon, la guitare. Samuel a pour passion la guitare, il aime jouer de la guitare même s'il n'en a pas joué ce soir, il dirige la louange, et vous voyez, on a tous des passions les unes ou avec les autres. Par exemple, j'ai appris ce soir, et je ne vais pas trop rigoler ce week-end avec ça, que Grace avait comme passion le kickboxing. Donc je vais faire en sorte d'être gentil avec elle pendant les prochains jours. Et on ne dirait pas comme ça, mais elle rigole pas, Grace, n'est-ce pas? Mais vous avez des passions, et le diable lui-même a une passion. Sauf que vous vivez peut-être votre passion comme un hobby. Lui, il vit sa passion comme quelque chose qui le dévore jusqu'à l'intérieur. Ça lui ronge les entrailles. Sa concentration totale se fixe sur cette chose-là. Et cette chose-là, c'est vous tenter. Il est attaché à vous tenter depuis la chute. Il ne fait que ça. Il se consacre sur ça. Il s'y adonne avec plaisir et il y adhère. Il y adhère d'une manière qui est formidable. Il y a un film en France qui s'appelle Le Dîner de C, et je vous passe les deux autres lettres. Film assez marrant, et dans ce film, qui est assez drôle, il faut dire la vérité, vous avez un gars qui s'appelle François Pignon. Vous connaissez François Pignon? Il est mignon, monsieur Pignon. Il est méchant, monsieur Brochant. Il est méchant, Satan? Ouais, c'est ça, Florence. La passion de François Pignon, c'est de faire des bateaux et des tours Eiffel et des pièces avec des allumettes. Vous vous souvenez? Il vient avec son catalogue, tout le monde le trouve ridicule. Il vient et il montre, regardez ma passion, je passe ma vie à faire des trucs avec des allumettes. Bon, très bien. C'est une passion, ça embête tout le monde dans le film, mais c'est pas bien méchant quand vous y regardez. Il y avait un homme, quand j'étais en prison moi-même, qui nous prenait la tête, bien qu'on ne l'ait jamais vu vraiment, dans le même bâtiment que moi il était. Cet homme avait une passion qui nous a vraiment pris la tête. Cet homme avait comme passion les explosifs. Cet homme s'appelle Antonio Ferrara. Il était dans mon bâtiment quand j'étais à Fleury-Mérogis. Et à cause de lui, il était au dernier étage de la cellule, à cause de lui, les parloirs, nos familles mettaient jusqu'à 3 heures pour accéder jusqu'à nos parloirs. Tout était sécurisé, ils s'étaient évadés de 2 ou 3 fois de prison. Et la dernière fois, ils s'étaient évadés en faisant tout exploser là-dedans. Il était spécialiste des explosifs, il passait sa vie à jouer avec des explosifs dans des casses de la région parisienne. Et tout le monde l'appelait pour aller braquer des fourgons blindés parce que sa passion, c'était les explosifs. Et ça avait fait de lui un homme particulièrement dangereux, à tel point qu'on lui interdisait tout contact avec les autres détenus, que lorsqu'il se promenait, c'était sur le toit de la prison, et qu'il y avait un hélicoptère qui tournait au-dessus de lui. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes ces choses-là ont été payées avec vos impôts? Et qu'est-ce que ça nous prenait à la tête, la passion pour les explosifs d'Antonio Ferrara, parce qu'on mettait toujours 3 plombes à voir nos familles. Mais dites-vous un truc, la passion de Satan, mais la passion de Satan, quoi. Elle est encore plus pernicieuse que celle de Ferrara, plus dévorante que celle de François Pignon, et elle se concentre à un point tel que vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un puisse avoir dans ce monde un tel focus sur une seule et même chose, à savoir vous tenter, et c'est sur vous qu'il exerce ces choses-là. La passion de Satan fait de lui un tentateur hors norme. Il est dévoré de l'intérieur. Il veut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement à cela qu'il veut vous amener. Vous tentez. Vous êtes sa proie. La passion qu'il a, c'est vous entraîner avec lui jusqu'au fond de l'abîme. Et il est un tentateur hors norme. Prenez garde. Nous devrions réfléchir abondamment à la personne de Satan. Nous n'y pensons plus beaucoup. La quatrième raison pour laquelle Satan est un tentateur hors norme, finalement c'est en raison du nombre et de l'unité des autres esprits qui sont avec lui. Les anges sont des esprits, vous relisez l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, Satan est un esprit, les tentateurs qui sont avec lui sont des esprits, et ce sont des anges qui ont perdu leur dignité. On parle d'un tiers des anges en raison de certains passages dans l'Apocalypse et dans les prophètes. C'est tout à fait probable, même si je ne vais pas en faire la démonstration ce soir, mais pensez à une chose simplement, c'est qu'ils sont nombreux. Et leur nombre, en soi, est une force. Essayez de vous imaginer un seul instant, quand vous vous baladez dehors, dans le centre Parole de Vie, vous avez peut-être la chance de trouver toutes sortes d'insectes dans l'herbe. Peut-être vous trouverez une sauterelle l'été. Vous savez, les bêtes qui sautent, qui volent un peu. Si vous en prenez une, elle va avoir l'air insignifiante. Elle est petite, c'est une sauterelle européenne. Si vous allez en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, vous allez tomber sur des sauterelles plus grosses, mais globalement, ces sauterelles-là, ou même au Mexique, je crois que je t'ai vu manger des chapulines une fois, toi, Clément, sur les photos, vous avez des sauterelles un peu plus grosses, des sauterelles dans la région de Oaxaca, que Clément a mangé avec beaucoup de délectation. Ces sauterelles sont peut-être plus grosses, voilà, vous avez des sauterelles au plafond, merci pour l'illustration. Ces bêtes sont peut-être plus grosses en Amérique latine ou en Afrique, mais elles restent petites en taille. Et comme on dit, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Pas vrai? Mais quand les sauterelles, elles arrivent en essaim, là, ça rigole plus. Parce qu'il existe des attaques de sauterelles, avec des nuages de sauterelles, qui déboulent dans des régions d'Afrique australe, ou d'Afrique subsaharienne, ou d'Afrique de l'Ouest, ou où vous voulez, qui viennent, qui vont tout dépouiller sur une étendue de terre, de sorte que lorsqu'elles s'en vont, il n'y a plus rien à manger. C'est la famine complète. Pensez aux Égyptiens. Quand les sauterelles ont investi leur récolte, quelle calamité ça a dû être. Des petites bêtes. Un essaim de petites bêtes. Regardez le dégât que ça fait. Regardez le nombre grouillant d'animaux qui viennent réduire à néant une récolte. Maintenant, prenez cette analogie et focalisez-la sur les démons et toute l'armée de Satan qui est avec lui. Si de si petits animaux peuvent dévaster une région complète, à combien plus forte raison la dangerosité de l'armée de Satan qui consacre toute sa force à la tentation est importante. Le nuage dévastateur des armées de Satan. Mais en plus de cela, l'unité de ces créatures est immense. Et Jésus le met clairement en évidence. Satan n'est pas divisé contre lui-même, sinon il ne subsisterait pas. J'ai conscience que C.S. Lewis, dans son livre Les Tactiques du Diable, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est très intéressant, Tactiques du Diable, c'est un dialogue imaginaire entre un démon supérieur et un démon inférieur. C'est pas mal fait, mais souvent vous avez des menaces du démon supérieur vers le démon inférieur, et vous avez l'impression qu'il y a un rapport de force, mais en réalité, il est beaucoup plus probable que le fait qu'il soit tellement focalisé et passionné sur la tentation du croyant, sur la haine de la gloire de Dieu, sur la perte de la joie de l'homme, que finalement ces dissensions internes que voici C.S. Lewis n'existent en fait pas du tout, et qu'ils sont unis à un point tel que vous ne pouvez pas l'imaginer pour votre perte. Ils sont nombreux, et ils sont unis. C'est ce qui leur donne une grande force. Une cinquième raison que je citerai maintenant, pour laquelle le diable est un tentateur hors norme, c'est ce que j'appellerais sa capacité de dissimulation ou de camouflage, de camouflage. Notamment sa capacité à se faire passer lui-même pour Dieu ou pour un représentant de Dieu en se déguisant par exemple en ange de lumière, comme le dit Paul aux Corinthiens au chapitre 11 en leur parlant des faux docteurs. La fausse doctrine est du diable, chers amis. À plusieurs reprises, Paul le dit, on l'oublie, hein, on badine avec la fausse doctrine, on fait des débats théologiques, on veut être amis avec toutes sortes de gens, il faut aimer nos amis. J'étais à protestant en fait il n'y a pas longtemps, j'ai vu des trucs terribles. Écoutez, franchement, à un moment, il faut dire la vérité, quand c'est de la fausse doctrine, quand ça jette la parole de Dieu par terre, c'est du diable. C'est le diable qui piétine la parole de Dieu. Ça nous choque parce que c'est des êtres humains qu'on a en face de nous, mais ils sont dans les pièges du diable. Ne soyez pas étonnés que Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Tout ce qui n'est pas né de Dieu est du monde, tout ce qui est du monde est du diable, le monde est sous l'empire du diable, et la postérité de la promesse, la postérité, celle qui est annoncée dans Genèse 3,15, détruit la postérité du serpent, c'est-à-dire les enfants qui sont en Christ, la postérité de Christ, postérité spirituelle, ceux qui sont unis à Christ, qui vont tous ensemble écraser la postérité du diable, c'est-à-dire ceux qui sont restés sous l'empire du diable. Jésus avançait dans la Judée et dans la Galilée, guérissant les malades, et arrachant ceux qui étaient sous l'empire du diable, nous dit le livre des Actes. Le diable est le prince de ce monde. Le diable règne dans ce monde. C'est à lui Dieu lui a donné en gestion avec tout ce qu'il contient. Et si vous êtes présent ce soir et que vous adorez Jésus, vous avez juste été arraché à ce monde, de sorte que vous avez changé de propriétaire. Mais aujourd'hui, vous avez un tentateur qui va se déguiser, qui va mettre un superbe habit, et un superbe habit d'ange de lumière pour pouvoir venir vous tenter en se faisant passer lui-même pour Dieu. Il a toutes sortes de méthodes, il va vous faire croire qu'il y a de nouvelles révélations, par exemple. Voilà pourquoi, moi qui travaille parmi les musulmans, je n'ai aucun problème à vous dire que la religion islamique est du diable. Je crois personnellement que Mahomet a eu une révélation. Je pense qu'il a eu une révélation. Je crois qu'il y a vraiment un ange qui s'est approché de lui, qui lui a fait une révélation. Je crois que c'est vrai. Je ne crois pas que c'était un ange de Dieu. Car si nous-mêmes, ou si un ange de Dieu vous prêchait un autre évangile, qu'il soit anathème, Galates 1, verset 8, c'est possible qu'un ange vienne vous faire des révélations. C'est possible que Joseph Smith ne soit pas un gros mytho, mais que quelqu'un soit venu lui faire une révélation. C'est le fondateur du mormonisme qui a rajouté un livre à la Bible. C'est possible qu'un ange vous fasse croire qu'il y a des nouvelles révélations. C'est possible que Satan fasse des miracles. La puissance de cet homme impie se manifestera par la puissance de Satan, nous dit l'Épître aux Thessaloniciens, la deuxième. Vous vous rendez compte que dans les derniers temps, on verra des choses miraculeuses qui vont nous épater, nous étonner, et que ces choses seront du diable. Les miracles ne sont pas une garantie d'authenticité de la parole de Dieu. Oui, Dieu peut faire d'immenses miracles, mais ce n'est pas une garantie. Ne vous laissez pas abuser. Je vais vous dire, moi je suis un gars cartésien. Avant d'être chrétien, j'ai vu un truc, je vais vous le montrer. J'ai un oncle qui fait de l'hypnotisme. Je l'ai vu de mes yeux. Deux chaises un peu plus hautes. De mes yeux, je l'ai vu, et devant Dieu, je ne vous mens pas. Il a pris deux chaises comme ça, il les a mis bout à bout. Il a attrapé une femme, il lui a fait un truc d'hypnotiseur, il l'a regardé dans les yeux. La femme est tombée un peu en arrière, il l'a placée en raideur cadavérique, la nuque ici, le dossier ici, le talon ici, la femme a tenu comme une planche. Je l'ai vu de mes yeux. Mon oncle pèse 120 kilos, le frère de ma grand-mère. Il s'est assis sur elle, il a levé les pieds du sol. Elle a tenu. Dites-moi si c'est pas de l'occultisme. C'est de l'occultisme. Ça l'est. C'est un miracle. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un miracle. Avez-vous oublié que les sorciers, les mages égyptiens, ont été capables de reproduire pour leur propre ruine, ce dit en passant, c'est assez marrant de voir qu'ils reproduisaient ce que faisaient les Hébreux, ça venait encore plus dépouiller les Égyptiens. C'est vraiment, quand vous relisez le texte, c'est assez marrant quand même, quoi. Oui, ils arrivent à imiter, mais c'est encore des calamités supplémentaires qui se rajoutent sur les Égyptiens, quoi. Jusqu'à un moment donné. À quel moment ils n'ont pas pu imiter? À quel moment ils ont arrêté d'imiter? Ils ont dit c'est le doigt de Dieu. L'eau en sang, non? Non. À quel moment est-ce qu'ils n'ont pas pu suivre les miracles de Moïse? C'est au moment où il a jeté de la poussière de la terre en l'air et que ça a donné des poux. Création. Au moment où Dieu crée de la poussière de la terre, comme il l'a fait dans Genèse, parce que Dieu crée de la poussière de la terre, la vraie poussière, littérale. Au moment même où il jette cette poussière en l'air et qu'elle se transforme en poux, c'était terminé. Les mages égyptiens, c'est le doigt de Dieu. On ne sait pas faire ça. On ne saura pas faire. Et toutes les autres calamités, ils se les prennent quand même dans la tronche. Mais c'est le doigt de Dieu. Il y a le doigt de Dieu, il y a la main du diable. Ils ont changé des bâtons en serpents. Ils l'ont fait. Méfiez-vous des miracles, ce n'est pas une garantie d'authenticité. N'oubliez pas que Satan peut se déguiser en ange de lumière. J'ai plein de coptes en ce moment qui nous gravitent autour et qui nous posent plein de questions. Il y a des filles qui se sont converties. Pour ceux qui connaissent Hélène, vous pouvez prier pour elle. Il y a une fille qui s'appelle Christina aussi qui est en recherche. Priez pour elle et il y aura peut-être sûrement des débats à venir avec un de leurs représentants peut-être qui va venir nous voir. Mais une des grandes questions qu'ils ont, c'est « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais des apparitions ?» C'est vrai quoi, quand il y a un saint qui apparaît, ou quand il y a Marie qui apparaît, qu'est-ce que t'en fais? À votre avis, qu'est-ce que je leur réponds? Satan est capable de se déguiser en ange de lumière. Ce n'est pas une garantie. Cherche Christ. Cherche Christ. La deuxième chose que sa capacité de dissimulation implique, c'est sa capacité à utiliser d'autres personnes tentées elles-mêmes pour en amener à en tenter d'autres. Typiquement, Clément d'Anguevue a reçu une tentation où il se dit que dans sa tentation, il a besoin d'un copain pour aller braquer une banque. Et il vient me voir moi. Eh ben, il a été tenté par le diable et par le moyen de Clément qui va me dire « Mais attends, on va pouvoir faire de l'argent, tu te rends pas compte !» Je précise que peut-être Clément d'Anguevue serait la dernière personne avec qui j'irai faire un braquage. Sa capacité à utiliser d'autres personnes tentées pour les amener elles-mêmes à en tenter d'autres, comme par exemple, quand Pierre s'approche, qui dit « Ah, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles du diable, les pensées des hommes. » Sa capacité à utiliser des personnes tentées elles-mêmes pour en amener à en tenter d'autres. Et puis enfin, sa capacité à amener des suggestions. Oh, celle-ci, elle va vous plaire, celle-là, parce que combien nous l'expérimentons au quotidien. Sa capacité à amener des suggestions au mal d'une manière qui rend l'homme incapable de discerner s'il s'agit de ses propres pensées mauvaises ou des artifices que le diable est en train de former dans notre cœur. Et vous êtes là, vous vous dites, mais comment est-ce que je peux avoir des trucs de fou pareils, des tentations pareilles, des pensées impures pareilles, des méchancetés pareilles qui me viennent du fond du cœur? Serait-ce que mon cœur est si mauvais? Oui, il est mauvais. Mais il est possible aussi que le diable vienne les former dans ton cœur. Oh, il a une grande capacité de dissimulation, d'adaptation, de se travestir en quelque sorte, de sorte que William Gurnall, qui a écrit Le chrétien dans son armure complète, trois volumes en vieil anglais qui sont un peu compliqués à lire, mais que franchement qui sont extraordinaires. William Gurnall a dit qu'aucune actrice n'a autant de robes pour monter en scène que le diable n'a de forme de tentation. Oui, les amis, il est fort. Et on n'a pas affaire à un petit ennemi. La sixième et dernière excellente raison pour laquelle il est un tentateur hors norme, c'est en quelque sorte l'adéquation parfaite qu'il y a entre ces tentations et votre cœur corrompu. L'adéquation parfaite qu'il y a entre ces tentations et votre cœur corrompu. Déjà, oubliez votre cœur corrompu un instant. En dehors de cela, sa tentation est toujours sur mesure. Toujours. Réfléchissez, il avait une pomme ou un fruit pour Ève, il avait du vin pour Noé, il avait des vêtements et un talent d'argent pour Géasi, il avait 30 pièces d'argent et une bourse entière pour Judas, et quoi d'autre encore? Il sait exactement, vous inquiétez pas, vous présenter la belle chose sous le meilleur angle, la belle carrière, le compte en banque bien rempli, la belle chemise, le beau pull gris et violet, tout ce que vous voulez, ces choses-là, il va vous les ramener et vous les donner, tout ce qu'il vous plaît. Non, je parlais de lui, tout ce qu'il vous plaira. Même si vous êtes un ministre de la parole, il viendra vous montrer que peut-être le ministère de l'autre est quelque chose à convoiter. De sorte que l'échec parfois est une grâce, croyez-moi. Sa tentation, elle est toujours sur mesure pour vous amener là où il a envie de vous amener. Mais le point, c'est qu'il ne fait pas violence à notre âme pour la tenter. Au contraire, il lui donne exactement ce qu'elle désire. Nous sommes un réceptacle idéal aux tentations de Satan. Oh, il sait nous la donner sur mesure. Toujours. C'est exactement ce qu'il te fallait. Comme une lettre à la poste, ça passe. Mais le sol devient fertile, non en recevant, mais en acceptant la graine qui y est placée. Planter une graine, c'est pas sûr qu'elle porte du fruit. Il faut que le sol la retienne. Et notre cœur est un terreau fertile pour le diable et ses tentations. Donc, six raisons pour lesquelles le diable est un tentateur hors norme. En raison de sa nature, il est un ange, il est un être surnaturel, il est un être intellectuel, en raison de son expérience depuis la création du monde, en raison de sa passion qui se focalise uniquement sur la tentation de votre âme et votre chute, en raison du nombre et de l'unité de ceux qui sont avec lui, en raison de sa capacité de dissimulation et en raison de la parfaite adéquation qu'il y a entre ses tentations et votre cœur corrompu. Or, nous devrions prendre garde aux attaques de Satan. Ce n'est pas un petit sujet. Thomas Brooks disait qu'il y a quatre choses que les chrétiens devraient connaître. Christ, sa parole, son propre cœur et les attaques de Satan. Christ, la parole, son propre cœur et les attaques de Satan. Ce sont les quatre premières choses que tout chrétien devrait connaître et méditer. Réfléchissez, quand est la dernière fois que vous avez médité ou entendu un sermon sur la personne de Satan? C'est pourquoi je suis bien content qu'on soit là aujourd'hui pour en parler. Ce n'est pas réservé qu'aux charismatiques, hein. C'est pour nous aussi que la parole de Dieu a été écrite. Et mes amis, je ne suis pas venu ici pour vous faire l'apologie de Satan. C'est mon ennemi. Je lui refuse même jusqu'à la majuscule. Regardez, quand j'écris sur le web, je ne mettrai jamais une majuscule. Jamais. Il ne la mérite pas. C'est l'ennemi de notre âme. Dès le commencement, il nous a fait chuter. Il ne nous aime pas. Et Dieu ne lui pardonnera pas. N'écoutez pas les doctrines étrangères modernes qui disent que pour certains cas, certains démons ou le diable seront pardonnés. Sa fin est écrite. C'est marqué dans la parole. La perdition est écrite pour lui. C'est le puits sans fond dans lequel seront plongés avec lui ceux qui auront refusé de croire en Christ et en son avènement. C'est pourquoi les choses sont graves. La fin de Satan est arrêtée. Et c'est notre ennemi si vous êtes en Christ ce soir. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce qu'on va vraiment développer pendant les prochains jours, c'est que la victoire de Christ sur Satan est assurée. Elle est assurée en sa mort expiatoire à la croix, par laquelle il a écrasé la tête du serpent. Elle est assurée dans la résurrection entre les morts que Christ a obtenue et par laquelle il a vaincu la mort, et on la vaincra aussi lorsqu'on ressuscitera avec lui. Et finalement, elle est assurée quant à ce jugement éternel qui mettra une chape de plomb sur la bouche de ce puits dans lequel Satan sera enfermé pour toujours, l'étang de feu terminé. Voilà la victoire que Christ nous acquiert une fois pour toutes en nous confiant en lui. Mais voilà ce soir, dans cette salle, finalement, il n'y a que deux catégories de personnes. J'espère une seule. Mais s'il y en a deux, il n'y en aura pas plus que deux. Ceux qui sont passés de l'empire du diable au royaume de Dieu en Jésus-Christ. Et ceux qui sont encore sous le joug de ce prince de ce monde. Où en es-tu? Quelle est l'ampleur des tentations de Satan dans ta vie? Il n'y a que deux options si Satan te laisse tranquille. Soit tu lui appartiens et il n'y a pas de danger pour toi, et ces tentations n'auront pour but que de te bien te garder au chaud dans ce phénomène dans lequel tu es, et de bien te dorloter là-dedans. Ou alors peut-être tu es chrétien, tu es passé de la mort à la vie, mais tu as mis en oubli la purification de tes péchés, tu t'es arrêté sur le chemin pour un temps, et simplement Satan est autour de toi, il te voit en train d'être endormi. Et croyez bien une chose, quand un chrétien dort, Satan marche sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller. Où en es-tu dans ta relation avec Satan? Est-ce qu'il est en train de se déchaîner sur toi? Oh, tu peux avoir de fortes indications à penser que ta vie chrétienne lui fait beaucoup de tort et qu'il est en train de se démener pour t'éloigner de la présence de Christ et des tâches, saintes tâches auxquelles tu es appelé pour la manifestation visible de sa gloire. Mais si tu es en paix, que penser? Es-tu un chrétien qui dort? Ou n'es-tu pas un chrétien du tout? Peut-être tu te dis, je suis presque sauvé. Ça fait longtemps que je viens à l'église, je me pose des questions. J'attends encore avant de prendre ma décision, ou plutôt avant de le suivre personnellement. Mais mon ami, qu'est-ce que ça veut dire être presque sauvé, sinon complètement perdu? As-tu quitté la demeure du prince de ce monde? Es-tu en route vers la cité céleste? Es-tu passé de la mort à la vie? Est-ce que Christ a écrasé la tête du serpent pour toi? Prions. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Et je te prie pour que ce soir, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ puissent réellement comprendre combien il est glorieux, combien il est bon de l'avoir pour soi. Père, merci de ce que, oui, tu nous avertis que le diable est une créature hors norme et qui pourrait bien triompher de nous sans aucun problème, nous traîner jusqu'en enfer en nous raclant le visage contre la terre, mais que tu sauves ceux qui se confient en toi de la colère à venir et de l'influence du diable pour toujours. Seigneur, je te prie de nous aider à le discerner dans ses œuvres et de nous donner de la sagesse pour le connaître, méditer ta parole, comprendre comment lui résister, éloigner les occasions de chute loin de nous, nous tenir fermes, marcher d'une manière qui soit stricte dans un sens, mais aussi vigilante par rapport à notre propre péché, à notre propre cœur, Seigneur. Aide-nous à nous tenir en garde contre notre propre inclinaison à faire le mal et à ne pas donner l'occasion au diable à être un terrain fertile. Donne-nous la grâce de vivre en paix les uns avec les autres, de nous pardonner réciproquement, de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous-mêmes, de ne pas laisser nous diviser, Seigneur, et de rejeter toute malice venant de sa part. Accorde-nous cette grâce dans les jours à venir de voir quelle grande victoire tu nous as acquise à la croix et que nous puissions nous confier en toi jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ.